Comment se renouveler chaque année dans cet évangile bien connu du denier dû à César? Eh bien, il faut peut-être remarquer ce que nous dit saint Paul, où il nous demande d'être particulièrement attachés au Christ, à ce qu'il a fait pour nous, et d'être dans l'action de grâce et l'union avec le Christ. C'est la raison pour laquelle la religion vraie n'est pas ni théocratique ni dans une dépendance de la puissance publique. Il y a à la fois une difficulté entre la dévotion privée et l'expression publique de notre dévotion et de notre foi en Dieu. D'autant plus que depuis un certain nombre de décennies, dans certains pays occidentaux, et plus particulièrement la France, il y a une véritable difficulté à accepter le fait religieux et à encadrer le fait religieux par la notion de laïcité, d'une laïcité assez restrictive en France. Mais donc, pour aborder ce piège qui a été tendu par les pharisiens, qui normalement étaient opposés à César et à l'occupation romaine, qui se sont alliés avec des ennemis, les Hérodiens, qui eux étaient favorables à l'occupation romaine, eh bien, ils tendent ce piège pour savoir si le Christ va accepter cette mainmise, cette puissance civile romaine dans leur pays. Et comme nous ne sommes pas là ce soir pour faire de l'histoire, mais pour essayer d'élever notre âme, pour nous recueillir, pour recevoir la Sainte Eucharistie ou faire une communion spirituelle, si nous ne sommes pas confessés depuis très longtemps et que nous voudrions faire une bonne confession avant de communier, eh bien, nous devons bien comprendre que, en effet, cet évangile est contemporain et qu'il nous dit quelque chose de notre vie publique, de notre vie sociale, de notre vie civile et en même temps de notre vie privée et de notre vie de prière. Seulement, la réponse de la communauté chrétienne et catholique depuis des siècles, ce n'est pas une séparation de l'Église et de l'État, mais une véritable coopération parce qu'il y a une unité humaine. Nous ne sommes pas de purs individus solitaires, nous vivons d'ailleurs en famille et nous essayons de prier en famille et nous avons aussi une confession publique de la foi. Mais tout d'abord, donc, quelle est notre nature par rapport à cette prière privée et cette prière publique avant de voir véritablement cette réaction ou cette attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'encadrement de la prière publique? Dans un premier temps, nous devons bien comprendre en effet que notre prière privée dans notre chambre, il y a des enfants qui ont des coins prière dans leur chambre pendant des années. Et puis quand on grandit, qu'on est adulte, on se dit on n'est plus des enfants. Alors est-ce qu'on va avoir un petit crucifix sur une table de chevet? Est-ce qu'on va avoir une petite image de la Vierge Marie à l'enfant? Est-ce qu'on va avoir une image du Christ? On n'est pas censé rentrer au séminaire ou au Carmel ou chez les dominicaines ou chez les bénédictines ou chez les bénédictins. Alors on se dit peut-être que tout cela c'est un peu de piété excessive. Et pourtant, même adultes, nous devons bien mettre un crucifix chez nous. Si vous avez peur de mettre votre crucifix dans votre salle à vivre, si vous avez plusieurs pièces dans votre habitation, au moins, bien sûr, qu'il soit dans votre chambre. Mais pas non plus à un endroit où vous ne pourrez jamais vous mettre à genoux ou difficilement. Cette vie unie au Créateur, c'est celle dont nous parle saint Paul. Et quand l'Église choisit cet évangile de César et en même temps ce beau passage de saint Paul sur l'intimité avec le Christ, c'est bien que notre vie privée de prière doit être authentique. Et pour cela, il faut quand même le connaître, Jésus. Il faut non seulement croire qu'il est le Fils de Dieu, le Verbe éternel qui s'est fait chair, mais qu'il est en effet l'un d'entre nous et un véritable homme, qu'il nous entend, et que lorsque nous prions, sans forcément bouger nos lèvres, lorsque nous sommes tout seuls ou lorsque nous sommes en famille ou en couple ou avec un groupe de prière, il nous entend effectivement. Lui qui a fait nos oreilles, qui a fait nos yeux, il entend mieux, il voit mieux, bien qu'il soit pur esprit. Et en même temps, depuis l'incarnation, il y a dans la vie divine cette nature humaine pour le Christ, pour la deuxième personne de la Sainte Trinité, véritablement homme. Et il nous connaît intimement. Il sait ce que c'est que d'avoir un corps. Il a été un petit bébé, il a mangé, il a été lavé, il a été vêtu. Et tout cela, c'est très important pour la foi chrétienne et pour notre prière chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les missionnaires allaient dans le monde entier. C'était pour que Dieu ne soit pas seulement le Tout-Puissant, mais pour leur dire que Dieu s'était fait homme. Notre prière, elle doit être fondée aussi, bien sûr, sur l'incarnation. Alors vous me direz pourquoi pendant des siècles, on nous a laissé inventer notre prière pour parler à Jésus. On a une prière pour le Père, l'Ancien des jours, Dieu dans son être, mais Dieu dans son expression, dans son verbe, dans sa parole. Comment parler à Jésus? Jésus nous a donné le Notre Père. L'Église nous a donné le « Je vous salue Marie ». Mais quelle prière utiliser pour parler à Jésus? Mais c'est peut-être justement pour vous laisser à vous-même et essayer de trouver une relation personnelle avec Jésus. Je vous suggère quand même, la prière que je suggère toujours, c'est « Âme du Christ, sanctifiez-moi ». Et cette prière qui vient du monde du scoutisme, mais qui vient en fait de Saint Ignace de Loyola, eh bien, nous pouvons l'apprendre par cœur pour nous donner des mots, parce que nous sommes peut-être un peu parfois prétentieux à nous dire « Oh, toutes ces prières, je préfère être plus sincère et choisir mes propres mots ». Mais quand nous avons des guides, quand nous avons un chapelet qui nous permet d'arracher une dizaine de minutes à notre journée, eh bien, au moins on l'a dit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et en effet, au soir de nos journées, nous pouvons penser que nous serons jugés par Jésus et que nous mourrons peut-être pendant notre sommeil. Vous allez me dire, oh, mais ça c'est pour les personnes âgées. Eh bien non, il y a des jeunes aussi qui meurent pendant leur sommeil. Alors, ce n'est pas pour nous faire peur que la mort est là, mais c'est pour nous donner une échéance, pour être examinés sur l'amour, comme nous dit Saint Jean de la Croix. Alors, cette foi, mais elle fonde la vie, elle nous permet de reconnaître la loi naturelle, elle nous permet de reconnaître la vie familiale. Et donc, dans notre société occidentale, qui est quand même bien malade, où l'on pense finalement vivre en dehors d'une famille, en dehors d'un père et d'une mère, tout cela est bien étrange, même si d'ailleurs il y a un côté de propagande, parce que la plupart d'entre nous quand même connaissent leur père, leur mère, dans un mariage. Et donc, il ne faut pas non plus trop grossir cette propagande, justement, cette impression que nous avons par les médias ordinaires, que nous devons vivre tout seuls et que le mariage est une chose temporaire ou dépassée. Alors même que cette complémentarité de l'homme et de la femme, elle est notre ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, nous devons le dire publiquement, mais non pas seulement défendre des vérités naturelles, même si en effet nous pouvons essayer de le dire, de dire mais c'est des vérités, même si on n'a pas la foi, même si on n'est pas religieux, même si on n'a pas une tradition biblique, c'est vrai. Oui, mais ces arguments naturels, une fois posés, il faut quand même un tout petit peu dire que Dieu existe et que ça vient aussi de Dieu, que ce n'est pas un hasard et que, justement, la religion n'est pas un fait seulement privé, mais un fait historique. Le Christ a prêché publiquement. Il a été interrogé par des autorités religieuses, il a été interrogé par des autorités civiles et il a été condamné à mort. Condamné à mort parce que il troublait la paix civile. Et c'était faux d'ailleurs. Et le juge lui-même, le gouverneur romain, voulait le libérer. Et voilà donc qu'encore aujourd'hui, nous avons ce conflit véritable sur la religion. D'autant plus que la religion, elle doit être fondée sur la loi naturelle qu'on décrypte dans les 10 commandements. Cette loi naturelle qui a donc été rappelée par Dieu par une révélation miraculeuse au peuple juif. Le fait de croire que nous ne venons pas des milliards d'années du hasard, le fait de respecter notre Dieu, le fait de prier ensemble une fois par semaine, le jour du Seigneur, d'arrêter de travailler, et cela est de plus en plus difficile, d'honorer notre père et notre mère, de ne pas être violent et meurtrier, de respecter et de canaliser notre sensualité, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas être envieux. Mais cela est dépassé par l'incarnation. Parce que ce n'est pas qu'une discussion de morale. L'incarnation, elle, nous dit que Dieu est venu jusqu'à nous, qu'il a été l'un d'entre nous, et que Noël est une des plus belles fêtes parce qu'on voit un bébé, et ce n'est pas anodin. Et donc, cette querelle des crèches dans les lieux publics nous rappelle qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, il nous faut prier. Il nous faut demander à Dieu qu'il y ait la paix entre les autorités publiques et les autorités religieuses, mais de la foi chrétienne. Parce que les autres religions, en règle générale, blessent d'une manière ou d'une autre les 10 commandements. Et si nous avons une frilosité à accueillir des personnes qui sont d'autres religions, ce n'est pas seulement par crainte irraisonnée ou par peur économique ou par xénophobie, mais c'est bien parce que les 10 commandements sont au cœur même de la vie sociale. Et nous voudrions, bien que nous soyons bien abîmés là-dessus depuis les années 60-70, nous ne voulons pas admettre un monde où il y aurait le divorce par répudiation. Et pourtant, nous avons lutté et nous restons dans cette foi et cette espérance du pardon dans le couple. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, dans les discussions sur la bioéthique, nous sommes face à un mur. Monseigneur Michel Aupetit nous dit « Le Conseil national d'éthique a changé. Il n'est plus un lieu de véritablement de dialogue rationnel, de dialogue honnête et sincère. Tout est déjà fixé, tout est déjà prêt pour aller jusqu'à la gestation pour autrui, c'est-à-dire payer une femme pour qu'elle porte un enfant pendant 9 mois. Tout cela est délirant. Oui. Alors, nous sommes donc face à ce César, à Dieu. Et si nous ne voulons pas être trop dans la politique et la polémique, au moins prions. Et en ce mois d'octobre, prions, mais le chapelet, Si vous n'avez jamais prié le chapelet ou difficilement, achetez un chapelet. Sur la croix, dites le « Je crois en Dieu ». Sur les gros grains, le « Notre Père », le « Je vous salue Marie » sur les petits grains. Et essayez, non pas comme un mantra, avec des sons incompréhensibles, de vous arrêter au mot « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ainsi, nous nous rappellerons du vrai Dieu qui s'est fait homme. Et c'est en effet l'essentiel. Ça dépasse la morale, la foi et l'espérance. Mais quand même, sans les œuvres et sans les actes, sans une charité concrète, sans les 10 commandements, c'est difficile. Demandons à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à nos anges gardiens, d'être des témoins de cette foi, de cette espérance et de cette charité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.